السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے کارناموں کا ذکر ہو رہا تھا. اس زمن میں
j'évoquais les œuvres accomplies par le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu au cours de son califat. Voici quelques détails sur les droits des dhimmis. Les dhimmis sont les sujets qui s'étaient soumis à l'État islamique et qui suivaient cependant leur religion et dont la protection était garantie par l'État musulman. Comparé aux musulmans, les dhimmis étaient exemptés du service militaire et du paiement de la zakat. C'est pour cette raison qu'on leur prélevait un impôt modique communément appelé la jizya pour assurer la protection de leurs biens, de leurs personnes et de leurs droits. Cet impôt était de 4 dirhams par an et par personne. Et cet impôt était imposé sur les adultes jouissant d'une bonne santé et qui étaient actifs. Les vieux, les handicapés, les nécessiteux et les enfants en étaient exemptés. Voir les handicapés et les démunis étaient soutenus par la trésorerie de l'État musulman. Lors des conquêtes de l'Irak et de la Syrie, nombre de tribus et de hameaux étaient devenus les sujets de l'État musulman en payant la jizya. Les conditions des pactes conclus avec eux stipulaient entre autres que leurs cloîtres et leurs églises ne seraient pas détruits, ni les forteresses qu'ils utilisaient pour se réfugier suite aux attaques des ennemis. Ils auront aussi le droit d'utiliser leurs cloches et ils pourront sortir leurs croix pour leur procession lors de leurs festivités. Khalid bin Walid avait conclu un pacte avec les gens d'Al-Hira lors du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ce pacte stipulait, entre autres, que la jizya ne sera pas imposée sur les vieux qui sont incapables de travailler ou qui sont frappés d'une maladie quelconque ou qui sont frappés d'un autre malheur ou qui étaient naguère riches avant de sombrer dans une telle pauvreté, le contraignant à vivre de l'aumône de ses coreligionnaires. Ceux-là n'auront pas à payer la jizya. Tant qu'ils vivront dans la Darul Hijra ou dans la Darul Islam, c'est-à-dire sous la gouvernance de l'État musulman, la trésorerie de l'État musulman va subvenir aux besoins de telles personnes et aux besoins des membres de leur famille. Si ces individus quittent le territoire islamique pour se rendre ailleurs, les musulmans ne seront plus responsables de leurs subventions. Selon un récit, le pacte conclu entre Ali bin Walid et les gens d'Al-Hira stipulait que les pauvres, les nécessiteux et les moines seront exemptés de la jizya.
Jamaa-e-Quran ka bahut bada kaam hai.
La compilation du texte du Saint-Coran était une œuvre importante accomplie à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. La compilation du texte du Saint-Coran était un service sans pareil à l'époque de l'âge d'or du califat d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. L'arrière-plan était en fait la bataille de Yamama menée contre Musalama le menteur. « 1200 musulmans sont tombés à martyr lors de ce conflit, dont une majorité d'éminents compagnons et de Hufaz, des mémorisateurs du Saint-Coran. Selon un récit, 700 de ces Hufaz seraient tombés à martyr. Vu cette situation, Dieu a inspiré à Omar radhiyallahu anhu l'idée de la compilation du texte du Saint-Coran. Omar en a fait mention au calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les détails à ce sujet sont mentionnés dans un hadith du recueil d'Al-Bukhari. Selon Ubayd bin Sabaq, Zayd bin Thabit al-Ansari a relaté, « Abu Bakr m'a fait venir lorsque les gens de Yamama sont tombés à martyr. » Omar radhiyallahu anhu se trouvait à ses côtés. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré, « Omar est venu me voir et il m'a informé que de nombreux Hufaz sont tombés à martyr lors de la bataille de Yamama et j'ai peur que d'autres qaris, les personnes qui ont mémorisé le Saint-Coran, ne tombent à martyr lors d'autres batailles et qu'ainsi une grande partie du Saint-Coran soit perdue, à moins que vous ne compiliez l'ensemble des versets du Saint-Coran. » Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a dit à Zayd, « J'ai répondu à Omar, comment puis-je ordonner quelque chose qui n'a pas été accompli par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Omar a déclaré, « Par Dieu, il s'agit d'une noble tâche. » Il m'a répété cela à plusieurs reprises au point où Allah m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et je considère pertinent ce que Omar a proposé. Zayd a déclaré, Abu Bakr m'a dit, « Oh Zayd, tu es jeune et tu es sage, et nous n'avons aucun soupçon à ton égard. Dans le passé, tu consignais les révélations reçues par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Recherche donc toutes les parties du Saint-Coran et compile-les. » Zayd bin Thabit a déclaré, « Je jure au nom de Dieu que s'il m'avait confié la mission de déplacer une montagne d'un endroit à un autre, cela m'aurait été plus facile que la tâche qu'il venait de me confier. » C'est-à-dire que c'était là une tâche immense. Zayd a répondu, « Pourquoi entreprenez-vous ce que le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas entrepris ?» Abu Bakr a déclaré, « Par Allah, il s'agit d'une tâche noble. » Et le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a répété cela plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah m'ait convaincu comme il avait convaincu Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu. Ainsi, je suis parti de là et je suis parti à la recherche des différentes parties du Saint-Coran. J'en ai trouvé sur des branches de dattier, sur des pierres blanches et dans la mémoire des gens. Et j'ai trouvé la dernière partie de la sourate At-Tawba auprès de Huzaima al-Ansari, des versets que j'ai trouvés chez personne d'autre. Il s'agit de ces versets où il est dit « Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum » C'était ces versets jusqu'à la fin de la sourate At-Tawba. Et les feuilles sur lesquelles le Saint-Coran a été compilé sont restées à la possession d'Abu Bakr jusqu'à son décès. Ensuite, elles étaient en la possession de Omar jusqu'à son décès. Et par la suite, ce manuscrit était en la possession de Hafsa bint Omar, radhiyallahu anha. Dans son ouvrage Shara Ussana, l'imam Al-Barwi a commenté en ces termes sur les hadiths évoquant la compilation du Saint-Coran. Il déclare, le Coran révélé par Dieu à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, a été compilé à la lettre et dans son entièreté par ses compagnons. Les hadiths présentent la raison suivante de la compilation du Saint-Coran. Le texte du Saint-Coran était préservé sur des branches de dattier, sur des pierres et dans les cœurs des compagnons. Ils craignaient qu'une partie du Saint-Coran ne soit perdue en raison du martyre des compagnons. Sur ce, ils ont conseillé au calife Abu Bakr de réunir tout le texte du Saint-Coran en un seul endroit. Cette tâche a été accomplie avec l'accord de tous les compagnons. Ainsi, ils ont compilé le Saint-Coran tel qu'ils l'avaient entendu du Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui, sans y apporter le moindre changement. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait le Saint-Coran à ses compagnons et il leur enseignait le Saint-Coran dans la forme présente. L'ange Gabriel avait enseigné cet agencement du Saint-Coran au Saint-Prophète Mohammed, que ce soit lui. Au moment de la révélation de chaque verset, l'ange Gabriel lui disait de consigner tel ou tel verset dans telle et telle sourate et après tel ou tel verset. La tâche de la compilation du Saint-Coran a débuté à l'époque du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu déclare à ce propos qu'Allah bénisse Abu Bakr. Il est celui qui a protégé pour la première fois le Saint-Coran en un seul volume. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu déclare à propos de la compilation du texte du Saint-Coran. La tâche qui n'avait pas été accomplie jusqu'alors était que le Saint-Coran n'avait pas été réuni en un seul volume. Quand 500 Hufaves du Saint-Coran ont été tués lors de la bataille de Yamama, Omar s'est rendu auprès du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et il lui a dit que 500 récitants du Saint-Coran sont tombés en martyrs lors de cette bataille et que de nombreuses batailles nous attendent. Si d'autres Hufaves sont tués, les gens auront des doutes au sujet du Saint-Coran. C'est pour cette raison que le Saint-Coran doit être rassemblé en un seul volume. Le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu a refusé dans un premier temps, mais il a finalement accepté les suggestions de Omar. Le calife Abu Bakr a confié cette tâche à Zayd bin Thabit, qui est du vivant, de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, consigner le texte du Saint-Coran, et il a nommé les grands compagnons pour l'aider. Bien que des milliers de compagnons avaient mémorisé le Saint-Coran, il était impossible d'en rassembler un millier au moment de la rédaction du texte du Saint-Coran. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu a ordonné que le Saint-Coran sera copié à partir des versions écrites. De plus, en guise de précaution, au moins deux Hufaves du Saint-Coran et d'autres devront confirmer ce texte. Par conséquent, le texte du Saint-Coran écrit sur des morceaux de cuir et d'os ont été rassemblés en un seul endroit et confirmés par les Hufaves du Saint-Coran. L'unique doute qui peut subsister sur ce texte du Saint-Coran concerne la période entre le décès du Saint-Prophète Mohammed et la décision prise par le calife. Une personne intelligente peut-elle admettre qu'on aurait du mal à rassembler en un seul volume le livre qui est lu quotidiennement et que les Hufaves récitent à d'autres musulmans à haute voix durant le Ramadan et dont le texte entier a été mémorisé du début jusqu'à la fin par des milliers d'individus, un livre qui, quoique n'ayant pas été rassemblé en un seul volume, a été consigné quand même par une vingtaine de compagnons et dont le texte intégral était présent sous forme de fragments. Celui qui a été nommé pour consigner le texte du Saint-Coran à l'époque de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'avait mémorisé, pouvait-il rencontrer des difficultés à cet égard? Étant donné que le Coran a été lu quotidiennement, pourrait-il y avoir quelque erreur dans ce volume et que cette erreur échappe à quelque autre Hufave? Si ce type de témoignage est mis en doute, en ce cas, aucun argument ne sera acceptable en ce monde. La vérité est qu'il n'existe dans le monde, à l'instar du Saint-Coran, aucun texte préservé avec une telle continuité. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu soutient que le Saint-Coran a été préservé dans son état originel et qu'il n'y a eu aucun changement comme l'allèguent certains. Ceci est la réponse aux objections soulevées contre le Saint-Coran aujourd'hui encore. Hazrat Musleh Maud Radhiyat Ranhu répond à une autre objection en ces termes. Il déclare une objection est que le texte du Saint-Coran en entier n'a pas été consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette objection est infondée. En effet, tout le Coran a été consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui. Ceux qui disent le contraire se trompent. Selon un récit d'Othman, quand une partie du Saint-Coran était révélée, l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, faisait venir un de ses scribes, et il lui disait « Insère ce verset à tel ou tel endroit ». Étant donné cette preuve historique, il serait insensé d'affirmer que le Coran n'a pas été complètement consigné en écrit à l'époque de l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui. La question demeure, pourquoi a-t-il été consigné en écrit à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu? La réponse est qu'à l'époque de l'envoyé d'Allah, et ce soit lui, le Coran n'avait pas été réuni en un seul volume comme il est à présent. Omar s'est dit que les gens diraient que le Coran n'a pas été préservé. Par conséquent, les mots qu'il a dit à Abu Bakr à cet égard étaient « Inni ara an ta'mura jamal Qur'an ». Je pense qu'il est approprié que vous ordonniez la collection du texte du Saint-Coran sous la forme d'un livre. Il ne lui a pas dit que vous devez écrire le texte du Saint-Coran. Sur ce, le calife Abu Bakr a fait venir Zayd et il lui a dit de réunir le texte du Saint-Coran. Il lui a dit « Ijma'hu ». Il ne lui a pas dit de l'écrire. Ces paroles démontrent qu'à l'époque, il s'agissait de rassembler les feuilles du Saint-Coran en un seul volume et non de l'écrire et de le consigner en écrit. Au cours du califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, le Coran a été rassemblé en un seul volume. Et plus tard, au cours du califat d'Othman, il y a eu de nouveaux progrès, notamment concernant la qira'a ou concernant la lecture ou la récitation. La qira'a a été uniformisée pour tous les Arabes, voire pour l'ensemble du monde musulman. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu explique ceci concernant la diffusion du Coran à l'époque du calife Othman. Il déclare à l'époque d'Othman et après le califat d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, on s'est plaint que des individus appartenant à des tribus différentes prononçaient le Saint-Coran différemment et que cela avait un effet néfaste sur les non-musulmans qui pensaient qu'il existe de nombreuses versions du Saint-Coran. La qira'a signifie qu'une tribu prononçait une lettre modifiée par la voyelle fatha, une autre par la voyelle kasra et une troisième tribu avec la voyelle damma. Cette caractéristique n'est présente qu'en arabe. Et en entendant ces différences, le non-arabe croira que leurs propos sont différents quand en fait ils disent tous la même chose. Afin de protéger la Ummah de ces troubles, le calife Othman a suggéré de faire des copies du manuscrit consignés à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et de les envoyer dans différents pays. Il a instruit qu'une seule récitation, qu'une seule lecture du Coran sera utilisée et aucune autre. Cette décision du calife Othman n'était pas fautive. À l'époque de l'envoyé d'Allah, puis ce soit lui, les Arabes menaient une vie tribale. C'est-à-dire, chaque tribu vivait séparément des autres tribus. Et les membres de ces tribus s'étaient habitués à leur propre dialecte. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre façon de parler. Mais en se rassemblant sous la bannière du Saint-Prophète, Mohammed, que ce soit lui, les Arabes se sont sédentarisés. Et au lieu d'une langue commune, la langue arabe est devenue une langue académique. Et nombre d'Arabes ont appris à lire et à écrire. Ainsi, chaque individu, quelle que soit sa tribu, pouvait prononcer un mot avec la même facilité que le mot était prononcé dans la langue académique, qui était en fait la langue du pays. Étant donné que tous les gens s'étaient habitués à une langue apprise, il n'y avait aucune raison qu'on les autorise à réciter le Saint-Coran avec leur accent tribal et à devenir source d'égarement pour les non-arabes. C'est pourquoi Othman radhiyallahu anhu a consigné le Saint-Coran selon l'usage mécois et a distribué les copies de cette version du Saint-Coran dans tout le pays et a ordonné que le Saint-Coran ne soit récité que dans le dialecte mécois. N'ayant pas compris ce point, certains écrivains européens et d'ailleurs objectent qu'Othman a fait écrire un nouveau Coran et qu'il a apporté de nouvelles modifications dans le Saint-Coran. Or, la vérité est ce qui a été présenté plus haut. Le Messie premier al-Islam déclare à ce propos, le Coran est incontestablement une révélation verbale. Son texte intégral, même ses points et ses lettres, sont demeurés inchangés. Allah l'a révélé dans un ordre parfait, sous la protection des anges. Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a pris toutes les précautions nécessaires à son propos. Il a fait consigner chaque verset sous ses yeux quand le Coran lui était révélé, jusqu'à ce qu'il le rassemble dans son intégralité. Il a en personne fixé l'ordre de ces versets et il les a rassemblés. Il n'a cessé de les réciter durant et hors de la salat, et ce jusqu'à quitter ce monde pour se rendre auprès de son ami, le bien-aimé, le Seigneur des mondes. Le Messie premier al-Islam ajoute, par la suite, le premier calife Abu Bakr Siddiq a rassemblé toutes les sourates du Saint-Coran selon l'ordre qu'il avait entendu de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Et après le calife Abu Bakr Siddiq, Allah a accordé la possibilité à Othman, en tant que troisième calife, de compiler le Coran en accord à la prononciation des Quraïchites. Et le calife Othman a diffusé cette copie du Saint-Coran dans tous les pays. La question est de savoir jusqu'à quand à la copie du calife Abu Bakr a été préservée. Le calife Abu Bakr Siddiq a compilé le Saint-Coran en un seul volume par l'entremise de Zayd bin Sabit. On appelle ce volume la Sahifa Siddiqi. Ce manuscrit est demeuré auprès du calife Abu Bakr Siddiq jusqu'à sa mort. Ensuite, il a été confié à Omar et celui-ci l'a confié à Hafsa, la mère des croyants, en lui ordonnant de ne pas le confier à personne. Cependant, quiconque veut en faire une copie ou veut corriger sa copie pourra en profiter. Le calife Othman, au cours de son califat, a pris le manuscrit de Hafsa temporairement et l'a copié et lui a rendu ce manuscrit. Quand Marwan est devenu le dirigeant de Médine en l'an 54 de l'Hégire, il a voulu prendre ce manuscrit de Hafsa, Hafsa qui a refusé de lui donner ce manuscrit. Après la mort de Hafsa, Marwan l'a pris d'Abdullah bin Omar et s'en est débarrassé. Mais Othman l'avait auparavant déjà conservé. Les premières œuvres du calife Abu Bakr Siddiq, ou les réalisations qui lui sont associées en premier, sont nommées les Awwaliyat Abu Bakr. Il s'agit des œuvres qu'il a exécutées en premier. Tout d'abord, il était le premier à se convertir à l'islam. Deuxièmement, il a construit la toute première mosquée devant sa propre maison à La Mecque. Troisièmement, il était le premier à s'être battu contre les Quraychites à La Mecque afin de protéger le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Quatrièmement, il a acheté et libéré de nombreux esclaves, hommes et femmes qui ont été persécutés pour s'être convertis à l'islam. Cinquièmement, il a été le premier à réunir tout le texte du Saint-Coran en un seul volume. Sixièmement, il était le premier à nommer le Coran Mushaf. Septièmement, il est le premier des califes bien guidés. Huitièmement, du vivant de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été le premier nommé émir du Hajj. Neuvièmement, il a conduit les musulmans de la prière pour la première fois durant la vie même du messager d'Allah, paix soit sur lui. Dixièmement, il a été le premier à établir la Baytul Mal en islam. Onzièmement, il est le premier calife de l'islam pour qui les musulmans ont fixé une allocation. Douzièmement, il est le premier calife à nommer son successeur. En effet, il avait nommé Omar comme calife qui allait lui succéder. Treizièmement, il est le premier calife dont le père Abu Kahafa était vivant quand on lui a prêté allégeance comme calife. Quatorzièmement, il est le premier à recevoir un surnom dans l'islam par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quinzièmement, il est la première personne dont les quatre générations ont eu l'honneur d'avoir été des compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Kahafa, son père, était un compagnon du Messie premier alayhi wa sallam. Abu Bakr radhiyallahu anhu était lui-même un compagnon. Son fils, Abdurrahman bin Abu Bakr, était un compagnon. Ainsi que son petit-fils, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakr, était lui aussi un compagnon du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Voici des détails concernant la physionomie du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. On relate qu'Aïcha a vu un arabe qui marchait. Elle était quant à elle dans sa haouda. Elle a déclaré : « Je n'ai vu personne de plus semblable à Abu Bakr que cette personne. » Le rapporteur a déclaré : Nous avons demandé à Aïcha de nous décrire la physionomie du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Aïcha radhiyallahu anha a déclaré : Abu Bakr était de teint clair. Il était mince et il avait les joues creuses. Il avait les reins légèrement courbés, de sorte que même son pagne ne s'arrêtait pas à sa taille. Et glissé vers le bas. Son visage était moins charnu, ses yeux étaient vers l'intérieur et son front était haut. Ibn Sirin relate quant à lui : J'ai demandé à Anas bin Malik si le calife Abu Bakr radhiyallahu se teignait les cheveux et la barbe. Anas radhiyallahu a déclaré : Oui, il le faisait avec du henné et du khatum, qui est une herbe. Voici les détails concernant la crainte de Dieu et la piété d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait offert des terres à Rabia bin Ja'far et à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et tous deux se sont disputés à propos d'un arbre. Abu Bakr radhiyallahu anhu a dit quelque chose de dur pendant la discussion, mais il l'a regretté par la suite. Il a dit à Rabia, « Oh Rabia, tu dois aussi me dire quelque chose de dur pour que cela serve de rétribution. Étant donné que je t'ai parlé durement, tu dois le faire également. » Mais Rabia a refusé de le faire. Et tous deux se sont présentés à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont raconté tout l'incident. Sur ce, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Oh Rabia, ne lui réponds pas durement, mais prie pour lui en ces termes. Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. C'est-à-dire, ô Abu Bakr, qu'Allah te fasse miséricorde. Rabia a suivi les instructions de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Abu Bakr radhiyallahu anhu a entendu cela, il était tellement affecté qu'il est retourné en pleurant abondamment. Selon un récit, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait vu un oiseau qui était dans un arbre. Il a déclaré, « Ô oiseau, bonne nouvelle pour toi. Par Allah, j'aimerais être comme toi. Tu t'assois dans un arbre et tu en manges les fruits. Ensuite, tu t'envoles. Tu n'auras aucun compte à rendre et tu ne mériteras aucune punition. » Par Allah, je souhaite qu'il y ait un arbre sur le bord de la route et qu'un chameau passe à côté de moi et m'attrape et me place dans sa bouche et me mâche et qu'il m'avale rapidement et qu'il m'extrait et que je ne sois pas un être humain. » Hazrat Muslim Maud a commenté sur le verset 41 de la sourate An-Naba, verset dans lequel il est dit « وَيَقُولُ الْكَافِرُ » Ya laytani kuntu turaba. C'est-à-dire quand le mécréant dira que je voudrais n'être que poussière. Le musulman radhiyallahu anhu explique : Certaines sectes musulmanes sont emplies d'une telle haine à l'égard des compagnons qu'ils disent que le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait l'habitude de réciter ce verset au moment de sa mort et cela prouve qu'il était un mécréant. En d'autres termes, il avait l'habitude de réciter ce verset, wa yaqulul kafiru Ya laytani kuntu turaba. Étant donné que le calife Abou Bakr récitait ce verset, selon eux, cela prouve qu'il était un mécréant, vu la présence du terme kafir. Qu'Allah nous en protège. Si ce récit est authentique et que ce verset concerne Abou Bakr, eh bien, eu égard à sa foi, ce verset signifie que si seulement Dieu me traite ainsi, qu'il ne me récompense pas pour mes bonnes œuvres et qu'il ne me punit pas pour mes erreurs. Ainsi, vu sous cet angle, cette phrase est celle d'un croyant parfait. Selon les hadiths, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, disait « Je ne serai pas pardonné en raison de mes bonnes œuvres, et je ne serai pardonné que par la grâce d'Allah. » Le mot « kafir » est utilisé ici par ironie, et cela signifie que ces gens l'appellent un kafir, un mécréant, celui qui était le plus proche de l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lors de ses batailles. On appelle kafir celui qui a sacrifié ici toutes ses richesses pour l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, et qui lui a donné sa fille de 11 ans en mariage quand il avait 55 ans. Il l'avait également accompagné lors de sa migration, et il l'avait soutenu tout seul à la Mecque. Le Saint-Coran affirme ironiquement que la personne qui a offert tous ses sacrifices est un mécréant, si ce verset concerne réellement Abou Bakr radhiyallahu anhu. Mais ces gens qui n'ont accompli aucune œuvre louable comparée à lui se posent en croyant. Ainsi donc, vu sous cet angle, le mot « kafir » est utilisé ici de manière ironique. Quand le calife Abou Bakr radhiyallahu était sur le point de mourir, il a dit à Aïcha radhiyallahu « Ô ma fille, tu sais que tu m'es la plus chère d'entre tous. Je t'ai offert tel ou tel terrain. Si tu l'as occupé et que tu en as profité, eh bien ce terrain aurait été ta propriété. » Mais à présent, ce terrain est la propriété de tous mes héritiers. Je veux que tu me la retournes. Tu n'as pas pris possession de ce terrain et j'en ai fait usage. Je veux que tu me retournes ce terrain afin que je puisse le répartir entre tous mes héritiers selon les règles prescrites dans le livre d'Allah. Et je souhaite rencontrer mon Seigneur dans un tel état où je n'ai pas préféré aucun de mes enfants aux autres. » Aïcha radhiyallahu anha a déclaré « J'obéirai à votre ordre à la lettre. » J'avais déjà mentionné auparavant l'incident que je vais décrire ci-dessous, mais je vais le mentionner ici de nouveau dans le contexte des récits sur l'éloge du calife Abou Bakr. Quand Allah a conféré au calife Abou Bakr le manteau du califat, comme à l'accoutumée le lendemain, celui-ci s'est rendu au marché avec un paquet de vêtements sur l'épaule. En cours de route, il a rencontré Omar radhiyallahu anhu et Abu Ubaida. Ces deux derniers lui ont demandé au calife du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où partez-vous? Le calife Abou Bakr a répondu, je me rends au marché. Ils lui ont dit, pourquoi donc? Vous êtes le responsable des affaires des musulmans. Venez avec nous, nous allons vous fixer une allocation. Vous n'aurez pas besoin de commercer par la suite. Alama Ibn Sa'd a commenté sur la dite allocation. Il déclare, le calife recevait deux manteaux, et quand il vieillissait, il les rendait et il en obtenait un autre. Lors de ses voyages, il prélevait de la trésorerie pour ses montures la même somme qu'il dépensait pour sa personne et ses proches avant d'être élu calife. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare, Abou Bakr radhiyallahu anhu était le roi du monde musulman. Mais que recevait-il? Il était le gardien des deniers publics, mais lui-même n'avait aucun contrôle dessus. En effet, Abou Bakr radhiyallahu anhu était un très grand homme d'affaires. Mais étant donné qu'il avait l'habitude d'offrir dans la voie de Dieu chaque sou qu'il recevait, quand l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est décédé et qu'il est devenu calife, il n'avait pas d'argent liquide. Le lendemain de son élection comme calife, il a pris un paquet de vêtements et il est parti les vendre. En cours de route, il a rencontré Omar radhiyallahu anhu qui lui a demandé ce qu'il faisait. Abou Bakr a répondu, « Je dois quand même survivre. Si je ne vends pas des vêtements, comment vais-je vivre ?» Omar a dit, « Cela est impossible. Si vous vendez des vêtements, qui fera le travail du califat ? Abou Bakr a répondu, « Si je ne fais pas ce travail, eh bien, quels seront mes moyens de subsistance ?» Omar lui a dit, « Prenez une allocation de la Baytul Mal. » Abou Bakr radhiyallahu anhu a répondu, « Cela m'est impossible. Quel droit ai-je sur la Baytul Mal ?» Omar a répondu, « Le Coran a permis de dépenser les deniers de la Baytul Mal sur ceux qui œuvrent pour la religion. Pourquoi donc vous ne pouvez pas en prendre ?» Par la suite, son allocation a été fixée de la Baytul Mal. À l'époque, cette allocation ne répondait qu'à ses besoins élémentaires concernant son alimentation et ses vêtements. Ibn Abi Mulaika relate ceci, « Si les rênes du chameau d'Abou Bakr tombaient, il faisait s'asseoir son chameau et il reprenait les rênes. On lui a demandé pourquoi il ne demandait pas aux autres de les lui remettre. Abou Bakr radhiyallahu anhu répondit, « Mon bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait ordonné de ne rien demander aux gens. » Ainsi, il était à ce point si prudent. Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu déclare, une fois, le saint prophète Mohammed Bissassa lui a entendu certaines personnes dans la mosquée qui disaient ceci. Quelle est la supériorité d'Abou Bakr sur nous? Comme lui, nous accomplissons nous aussi des bonnes œuvres. L'envoyé d'Allah, Bissassa lui, a déclaré. Aux gens, la supériorité d'Abou Bakr n'est pas en raison de sa swala ou de ses jeûnes, mais en raison de la bonté qui se trouve dans son cœur. C'est-à-dire, c'est en raison de la vertu qu'il nourrit en son cœur et sa dévotion au prophète et en raison de sa crainte d'Allah qu'il a mérité ce statut. C'est pour cette raison qu'il vous est supérieur. Et d'ailleurs, il agit en conséquence. Il n'est pas question uniquement de ses sentiments. En présentant l'interprétation d'un verset du Saint-Coran, le Muslim Maud Radhatanhu a décrit le statut d'Abou Bakr en ces termes. Il déclare, Allah déclare que vous devrez continuer à l'adorer jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau de la foi parfaite et que tous les voiles ténébreux disparaissent et que vous compreniez que vous avez changé complètement et que vous vivez maintenant dans un nouveau pays, sur une nouvelle terre, sous un nouveau ciel, et que vous êtes une nouvelle créature. Les soufis nomment Baka cette nouvelle vie. Quand on atteint ce niveau, l'on accueille en soi le souffle de l'Esprit-Saint et l'on reçoit les anges. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré que si l'on veut voir un mort marchant sur terre, l'on doit regarder Abou Bakr radhiyallahu anhu. Il n'a pas mérité ce statut en raison de ses œuvres, mais en raison de ce qu'il nourrit en son cœur. Abu Sayyid al-Khudri raconte qu'une fois, certaines personnes étaient en voyage avec l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Quand ils se sont arrêtés, ils se sont divisés en différents groupes, un tel avec un autre. Abu Sayyid Khudri raconte, « J'ai campé en compagnie d'Abou Bakr. Nous étions accompagnés d'un bédouin. Et dans la maison bédouine où nous habitions, il y avait une femme enceinte. Ce bédouin a dit à cette femme, « Souhaites-tu avoir un fils? Si tu me donnes une chèvre, eh bien, tu auras un fils. » La femme lui a offert une chèvre. Ce bédouin lui a récité des phrases rimées, c'est-à-dire il a récité des incantations. Ensuite, il a abattu la chèvre et les gens se sont assis pour en manger. Par la suite, quelqu'un a dit, « Savez-vous d'où vient cette chèvre ?» Et il a relaté toute l'histoire, notamment comment ce bédouin avait pris la chèvre de cette femme en lui promettant qu'elle aura un fils suite à ses incantations. Le narrateur a déclaré, « Abou Bakr était également présent là-bas. » Exprimant du dégoût, il a mis ses doigts dans sa gorge pour régurgiter cette nourriture. C'est-à-dire qu'il a vomi cette nourriture associée au shirk, un repas qu'il ne pouvait pas consommer. Aïcha radhiyallahu anha a relaté que le calife Abou Bakr radhiyallahu anhu avait un esclave qui lui apportait des revenus. Et Abou Bakr radhiyallahu anhu subvenait à ses besoins grâce à ses revenus. Un jour, l'esclave a apporté quelque chose et Abou Bakr en a mangé. L'esclave lui a demandé s'il savait ce qu'il avait consommé. Abu Bakr lui a demandé ce que c'était. Il a dit, « J'ai fait de la divination pour quelqu'un au temps de l'ignorance. En fait, je ne maîtrise pas cette pratique et j'ai trompé cette personne. Mais par la suite, quand il m'a rencontré, il m'a offert quelque chose en retour. Et c'est ce que vous avez mangé. » Ainsi donc, parfois, l'esclave apportait des cadeaux ou des mets à Abu Bakr radhiyallahu Abu Bakr radhiyallahu a placé sa main dans sa gorge et il a vomi tout ce qu'il avait consommé. Il a déclaré que je ne peux pas consommer pareille nourriture qui est interdite. Abdullah bin Omar radhiyallahu relate, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré, quiconque traîne ses vêtements par orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de la résurrection. Abu Bakr radhiyallahu a déclaré, « Un côté de mes vêtements reste lâche à moins que je n'en prenne particulièrement soin. » Le saint prophète a déclaré que tu ne le fais pas par orgueil. Le Messie promet l'Islam a déclaré, « Une fois l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a dit que ceux dont les vêtements pendent vers le bas iront en enfer. » Abu Bakr radhiyallahu a pleuré après avoir entendu cette parole parce que sa peine est traînée tout le temps. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, lui a dit, tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Ainsi donc, l'intention a une grande influence et la protection du statut est quelque chose de nécessaire. On trouve aussi mention de l'obéissance parfaite d'Abu Bakr à l'égard du saint prophète Mohammed, son amour pour lui et le sens de l'honneur qu'il démontrait à l'égard de l'envoyé d'Allah. On raconte qu'une fois Aïcha s'adressait de manière courroucée au saint prophète Mohammed à la maison. Et son père, Abu Bakr, est entré. Ne pouvant maîtriser sa colère face à l'effronterie de sa fille à l'égard de l'envoyé d'Allah, il s'est avancé pour la frapper. Le saint prophète Mohammed s'est interposé rapidement entre le père et sa fille et il a pu protéger son épouse Aïcha du châtiment de son père. Lorsque Abu Bakr est parti, le saint prophète a dit à Aïcha en plaisantant, « As-tu vu comment je t'ai protégé de la punition de ton père ?» Quelques jours plus tard, lors d'une autre visite, Abu Bakr a constaté qu'Aïcha parlait gaiement au saint prophète Mohammed lui. Abu Bakr a déclaré, « Vous aviez partagé votre mésentente avec moi. À présent, partagez avec moi votre instant de bonheur. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, « Nous vous y avons fait participer. » Uqba bin Harith raconte ceci, « J'ai vu Abu Bakr avec Hassan dans ses bras. » Abu Bakr disait, « Que mon père te soit sacrifié. Il ressemble au prophète et il ne ressemble pas à Ali. » Ali, quant à lui, riait après avoir entendu cela. Abdullah bin Omar radhiyallahu relate, Hafsa, la fille d'Omar bin al-Khattab, est devenue veuve après la mort de Khunais bin Hudhayfa Sahmi, qui était l'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Khunais avait participé à la bataille de Badr et il est mort à Médine. Omar bin al-Khattab racontait, j'ai rencontré Uthman bin Affan et je lui parlais de Hafsa. Et je lui ai dit que je peux lui offrir sa main en mariage. Othman a répondu, « Je vais réfléchir à ce propos. » Omar a déclaré, « J'ai attendu plusieurs jours. » Et après quelques jours, Othman a déclaré, « J'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant. » Omar ajoute, « Je me suis parti à la rencontre d'Abu Bakr et je lui ai proposé la main de Hafsa, ma fille. » Abu Bakr est demeuré silencieux et il ne m'a rien dit. J'étais plus triste en raison de son refus que du refus d'Othman. Ensuite, j'ai attendu quelques jours. Et par la suite, le saint prophète Mohammed a demandé la main de Hafsa en mariage et je les ai mariés. Quelques jours après, Abu Bakr m'a rencontré et il m'a dit ceci. Peut-être étiez-vous en colère contre moi lorsque vous m'aviez proposé la main de Hafsa et que je ne vous ai pas répondu. Omar a déclaré, oui. Abu Bakr a déclaré. En fait, je n'ai pas donné de réponse parce que je savais que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, souhaitait se marier à Hafsa et je ne pouvais pas révéler son secret. C'est pourquoi j'ai gardé le silence ou j'ai refusé. Si le saint prophète Mohammed lui avait abandonné cette idée, j'aurais certainement accepté la proposition de me marier avec elle. Voici l'hommage rendu par Ali à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu déclare: je me suis tenu parmi ceux qui ont prié pour Omar bin al-Khattab après son décès, quand on avait placé sa dépouille sur une planche. Une personne est venue derrière moi et a posé son coude sur mon épaule. Cette personne a déclaré: qu'Allah te fasse miséricorde. J'avais cet espoir qu'Allah va t'enterrer avec nos deux compagnons, parce que souvent j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclarer: moi et Abu Bakr et Omar, nous étions dans tel ou tel endroit. Moi, Abu Bakr et Omar, nous avions fait ceci ou cela. Moi, Abu Bakr et Omar, nous sommes partis là ou là. Ainsi donc, j'espérais qu'Allah va te garder en leur compagnie. Quand Ibn Abbas s'est retourné, il a constaté que c'était Ali bin Abi Talib qui prononçait ces paroles. Inch'Allah, je vais présenter les récits restants plus tard.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر